Chapitre 18e. Les ennuis de la veuve. Le lendemain matin de bonne heure, M. Slope fut appelé dans la chambre de l'évêque. Il s'attendait à le trouver irrité et stylé par sa femme à reprendre l'admonestation qu'elle lui avait faite elle-même le soir précédent. M. Slope était décidé à ne point l'accepter. Il entra avec des dispositions belliqueuses, mais l'évêque était de l'humeur la plus paisible et la plus douce. Sa seigneurie se plaignait d'être un peu mal à l'aise, d'avoir une légère migraine et de souffrir un peu de l'estomac, mais l'humeur était excellente. « Oh, Slope !» dit-il en prenant la main que lui tendait son chapelain. « L'archidiacre Grantly doit venir me voir ce matin, et je ne suis vraiment pas en état de le recevoir. Il faut que je vous demande de le voir à ma place. » Et le docteur Prowdy expliqua à M. Slope qu'il devait dire à l'archidiacre avec toute la politesse possible, que M. Harding ayant refusé la place de conservateur, elle avait été offerte à M. Quiverful, qui l'avait acceptée. M. Slope fit de nouveau remarquer à l'évêque que cette décision n'était peut-être pas la plus sage, mais il le fit à voix basse. Cette précaution même n'était peut-être pas suffisante, et pendant le peu de temps qu'il mit à dire ces quelques paroles, l'évêque lui montra du pouce une porte qui faisait communiquer sa chambre à coucher avec une autre pièce des appartements intérieurs. M. Slope comprit et se tut, mais il sentit que ce geste scellait la ligue entre l'évêque et lui, et que la nomination de M. Quiverful était le dernier sacrifice offert sur l'autel de la soumission conjugale. Ce fut une convention tacite passée entre les deux alliés, et M. Slope tendit de nouveau sa main à l'évêque, qui comprit la signification du geste et marqua son assentiment par un léger clignement d'yeux. « Soyez poli avec l'archidiacre, je vous prie, M. Slope, » dit-il à haute voix, « mais montrez-lui que M. Harding m'a enlevé le moyen de l'obliger. » Ce serait calomnier Mrs. Prowdy que de dire qu'elle avait l'oreille au trou de la serrure pendant cette entrevue. Elle avait assez de dignité pour ne pas s'abaisser jusque-là. C'était bon pour une femme de chambre. Non, elle ne mit pas l'oreille au trou de la serrure, mais elle se tint aussi près de la porte que possible, et sans se raballer un manège de femme de chambre, elle eut tout l'avantage qu'en aurait tiré celle-ci. Ce fut néanmoins peu de chose ce qu'elle entendit, et ce peu de chose suffit pour la tromper. Elle ne vit rien de cette amicale poignée de main, ne devina rien de l'alliance conclue. Elle n'eut pas la moindre idée que les deux traîtres eussent comploté son humiliation, se fussent concertés pour éloigner de ses lèvres la coupe si douce du pouvoir avant qu'elle l'eût goûtée. Oui, c'était bien deux traîtres, l'époux de son cœur et l'homme qu'elle avait tiré de son néant pour l'asseoir au foyer d'un palais épiscopal. Mais il n'avait ni l'un ni l'autre la hauteur de sentiment et la persévérance de cette femme. Ils avaient beau être ligués contre elle, elle n'avait pas encore perdu la bataille. M. Slope ne doutait pas que le docteur Grantly ne déclinât l'honneur de le voir. C'est en effet ce qui arriva. En arrivant au palais, l'archidiacre reçut un billet. M. Slope présentait ses compliments, etc., etc. L'évêque, malade, gardait la chambre et regrettait vivement, etc., etc. M. Slope avait reçu les instructions de l'évêque et si cela était agréable à l'archidiacre, aurait l'honneur, etc., etc. Cela ne fut pas agréable à l'archidiacre. Après avoir lu le billet dans le vestibule, il le froissa, murmura quelques mots de regret relativement à la maladie de sa seigneurie et se retira sans même laisser un message verbal en réponse au billet de M. Slope. « Malade !» se dit l'archidiacre en remontant dans sa voiture. « Cet homme est un poltron. Il a peur de me voir. Malade, je le crois bien. » L'archidiacre n'était jamais malade et ne comprenait pas qu'on pût être forcé par la maladie de manquer un rendez-vous. Une excuse de ce genre était pour lui un subterfuge, et dans le cas présent, il ne se trompait guère. L'archidiacre se fit conduire chez son beau-père dans High Street, et apprenant que M. Harding était chez sa fille, il alla l'y trouver. Il était exaspéré en entrant dans le salon. « Lisez-moi cela, » dit-il, en jetant à M. Harding le billet chiffonné de M. Slope. « On me dit que si cela m'est agréable, je puis avoir l'honneur de voir M. Slope, et cela après un rendez-vous formel donné par l'évêque. »« Mais il dit que l'évêque est malade, » fit observer M. Harding. « Allons donc !» Vous ne me direz pas que vous admettez une excuse comme celle-là. Il était bien portant hier. Voulez-vous que je vous dise? Je verrai l'évêque et je lui dirai carrément ce que je pense de sa conduite. Je le verrai, ou bien il fera trop chaud pour lui à Barchester. » Eleanor était assise dans le salon, mais le docteur Grantly, dans son irritation, l'avait à peine remarquée. Elle lui dit alors le plus innocemment du monde, « Je voudrais que vous eussiez vu, Monsieur Slope. Je crois que ça aurait été une bonne chose. » L'archidiacre se tourna brusquement vers elle. Eût-elle avoué qu'elle avait accepté M. Slope pour son second mari, elle n'aurait pas plus pleinement convaincu l'archidiacre de son passage au camp ennemi qu'en exprimant ce simple regret. Pauvre Eleanor. Le voir ! Dit l'archidiacre avec un regard foudroyant. Et pourquoi m'abaisserais-je dans l'estime du monde et dans la mienne propre en me mettant en contact avec cet homme ? J'ai vécu jusqu'ici parmi des gentlemen, et je ne me laisserai traîner par personne dans une autre compagnie. » Le pauvre M. Harding savait ce que voulait dire l'archidiacre, mais Eleanor était aussi innocente que son bébé. Elle ne comprenait pas que l'archidiacre dût être traîné dans la mauvaise compagnie pour consentir à avoir avec M. Slope une entrevue de quelques minutes qui servirait sans doute les intérêts de son père. « J'ai eu hier un entretien d'une heure avec M. Slope, » dit-elle en prenant un air de dignité, « et je ne m'en suis pas sentie avilie. C'est possible, mais vous aurez la bonté d'admettre que je suis seul juge de ce qui me concerne. Et laissez-moi vous le dire, Eleanor, vous ferez bien de vous laisser guider aussi par les conseils de ceux qui sont vraiment vos amis. Sinon, vous ne les trouverez plus autour de vous, le jour où vous aurez besoin d'un avis. » Eleanor rougit jusqu'à la racine des cheveux, sans soupçonner pourtant les pensées de l'archidiacre. Depuis la mort de John Bold, le sentiment de l'amour était mort dans son cœur, et ce n'était pas à M. Slope qui pouvait l'y faire revivre. Elle rougit néanmoins, car elle comprit que l'archidiacre blâmait sa conduite, et elle souffrait de voir que son père ne prenait pas sur le champ son parti, ce père, pour l'amour duquel elle avait consenti à recevoir les confidences de M. Slope. Elle avait fait à M. Harding le compte-rendu détaillé de cette entrevue, et celui-ci, tout en continuant à ne point partager les vues de M. Slope touchant l'hospice, n'avait rien dit à sa fille qui fût un blâme de sa conduite. Elle était trop irritée pour s'humilier devant son beau-frère. Elle ne l'avait d'ailleurs jamais fait. Il n'y avait pas d'intimité entre eux. « Je ne vous comprends pas du tout, docteur Grantly, » dit-elle. « Je ne sache pas avoir rien fait que mes amis puissent désapprouver. » M. Slope est venu pour savoir précisément quel était le désir de papa relativement à l'hospice, et comme ses intentions étaient, je crois, amicales, je le lui ai dit. « Ses intentions amicales !» dit l'archidiacre en ricanant. « Je crois que vous faites injure à M. Slope, » continua Eleanor. « Mais j'ai déjà raconté tout cela à papa. » Et comme ce que je dis ne semble pas avoir votre approbation, docteur Grantly, avec votre permission, je vous laisse avec papa. » Et ce disant, elle quitta lentement le salon. M. Harding était bien malheureux. Il était clair pour lui que l'archidiacre et sa femme voyaient déjà Eleanor mariée à M. Slope. M. Harding ne pouvait se résoudre à le croire, mais il ne pouvait nier que la société de M. Slope ne parut être agréable à sa fille. Elle le voyait constamment, et il était le seul homme jeune et célibataire qu'elle reçut. Elle prenait toujours son parti quand elle entendait critiquer sa personne ou sa conduite, bien qu'elle n'ignorât pas combien il déplaisait à ses amis. Et pourtant, M. Harding sentait que si Eleanor voulait devenir Mrs. Slope, il n'avait point d'objection sérieuse à lui opposer. Elle était maîtresse de sa personne, et lui, père, ne pouvait pas dire qu'elle se déconsidérât en épousant un ecclésiastique bien posé dans le monde. Quant à se quereller avec elle à l'occasion de ce mariage, à se séparer d'elle, ainsi que l'archidiacre en avait annoncé l'intention à M. Harding, cela ne pouvait être mis en question. Si Eleanor se décidait à épouser M. Slope, il surmonterait de son mieux son aversion. Son Eleanor, si longtemps sa compagne dans la vieille maison de l'hospice, serait toujours l'enfant de son cœur. La repousserait qui voudrait, lui, jamais. Si le destin voulait que, dans ses vieux jours, il dût s'asseoir à la même table que l'homme qui lui déplaisait le plus au monde, il subirait son sort. Tout lui serait plus supportable que la perte de sa fille. Il fut donc bien malheureux en voyant Eleanor quitter le salon et comme il le faisait d'ordinaire dans ses moments de tristesse, il se mit à jouer un air lent sur un violoncelle imaginaire, sa main droite faisant le mouvement de promener un archet sur des cordes que touchaient les doigts de sa main gauche. « Elle épousera cet homme, aussi sûr que deux et deux font quatre, » dit l'archidiacre. « J'espère que non, » dit le père. « Mais si elle veut l'épouser, que puis-je y faire? Je n'ai pas le droit de l'en empêcher. »«
Pas le droit ?»
s'écria le docteur Grantly. « Aucun droit comme père. Il est prêtre comme moi, et rien ne nous l'a fait connaître encore comme un méchant homme. » L'archidiacre ne voulut point l'admettre, mais le lieu était mal choisi pour faire le procès à Eleanor. Ils sortirent et allèrent continuer la discussion sous les ormes du parvis. M. Harding fit connaître à son gendre quelle avait été la raison, ou tout au moins le prétexte de la dernière visite de M. Slope à sa fille. Il avoua qu'il ne pouvait croire à la sincérité de la sollicitude de M. Slope. « Je ne puis oublier quelle a été son attitude vis-à-vis de moi, » dit M. Harding, « et il n'est pas possible que ses idées aient changé si tôt. »«
Je comprends tout, » dit l'archidiacre.
« L'insidieux Tartuffe, il veut pourvoir le père et acheter ainsi la fille. Il veut lui montrer combien il est puissant, combien il est bon. Qu'il est disposé à tout faire pour ses beaux yeux, c'est clair comme le jour. Mais il a affaire à de plus fort que lui, Monsieur Harding, » dit-il en se tournant vers son compagnon et appuyant la main sur le bras de son beau-père. « Il vaudrait peut-être mieux pour vous perdre l'hospice que de l'obtenir à ce prix. »«
Le perdre ?» dit M. Harding. « Mais je l'ai déjà perdu. Je n'en ai pas besoin. J'ai déjà arrangé ma vie sans lui. Je n'en veux pas. Et je vais écrire un mot à l'évêque pour lui annoncer que je retire ma candidature. »
M. Harding était enchanté de sortir ainsi de ses ennuis. Mais il allait trop vite pour l'archidiacre.
« Non, non, il ne s'agit pas de cela. Nous aurons l'hospice, mais non par la protection de M. Slope. Si elle était nécessaire, nous y renoncerions. Mais nous l'aurons en dépit de lui. Arabin sera demain à Plumstead. Vous y viendrez et vous lui parlerez de l'affaire. »
Ils entrèrent tous deux dans la bibliothèque de la cathédrale qui servait aux dignitaires de l'église comme d'un salon commun où ils écrivaient leurs sermons et leurs lettres et lisaient des ouvrages théologiques et quelquefois des revues et des journaux. Là, les deux alliés arrêtèrent leur ligne de conduite. L'archidiacre écrivit à l'évêque une lettre ferme, mais respectueuse, dans laquelle il faisait valoir les droits de son beau-père à la place de conservateur et exprimait son propre regret de n'avoir pu voir sa seigneurie quand il s'était rendu au palais. Il ne fit aucune mention de M. Slope. Il fut entendu que M. Harding viendrait le lendemain à Plumstead, et après une longue discussion, l'archidiacre proposa d'y inviter Eleanor pour la soustraire, si c'était possible, aux attentions de M. Slope.
Une semaine ou deux, dit-il, pourront lui apprendre quel est ce personnage, et tandis qu'elle sera chez nous, elle sera en sûreté. M. Slope ne viendra pas l'y retrouver.
Eleanor ne fut pas peu surprise quand son beau-frère, rentrant chez elle, la pressa très poliment de venir à Plumstead avec son père. Elle comprit sur le champ que son père avait combattu pour elle. Elle lui en sut gré, et pour ne pas lui faire de peine, elle ne témoigna pas son ressentiment à l'archidiacre en refusant son invitation. Mais elle ne pourrait pas, lui dit-elle, s'y rendre le lendemain. Elle avait été invitée à prendre le thé chez les Stanhope et avait accepté. Si son père pouvait l'attendre jusqu'au surlendemain, elle partirait avec lui, sinon elle irait le retrouver.
« Les Stanhope, » dit le docteur Grantly,
« je ne savais pas que vous fussiez si intime avec eux. »«
Je ne le savais pas non plus, » dit-elle, jusqu'à une visite que m'a faite hier Miss Stanhope. Elle me plaît beaucoup et j'ai promis d'aller jouer aux échecs avec eux.
« Doivent-ils avoir une réunion ?» demanda l'archidiacre, pensant toujours à M. Slope.
« Oh non, Miss Stanhope m'a dit qu'il n'y aura personne.
Mais elle avait appris que Mary m'avait quitté pour quelques semaines. Je ne sais qui lui avait dit que je jouais aux échecs, et elle est venue m'inviter.
« Voilà qui est amical, en effet, » dit M. Harding. « Assurément, ils ont l'air plutôt d'étrangers que d'anglais. Mais cela ne leur enlève rien de leur qualité. »
L'archidiacre était porté à voir les Stanhope d'un œil favorable. Il n'avait aucune objection à faire. Il fut donc convenu que M. Harding retarderait d'un jour sa visite à Plumstead et alors emmènerait avec lui Eleanor, l'enfant et la bonne.